Bonjour et bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine, édition du 23 août 2018. Encore Monique Kerouac à l'animation. Toujours en compagnie, merci, Monsieur Francis Marin, mon chéri.
Bonjour, bonjour.
Puisque Marie Lalande et Yvan Deslauriers sont toujours en vacances, les chanceux. Alors, et bien sûr, nous sommes en compagnie de Jean-François Roy à la mise en onde et au choix de la musique. Cher Francis, pas François, mais Francis, de quel sujet traiterez-vous aujourd'hui?
Bon, le premier sujet a été identifié par notre recherchiste en résidence aux Îles-de-la-Madeleine, qui compile, en fait, c'est un article qui compile le résultat de 3 recherches sur l'effet des pauses dans l'apprentissage.
Ah, d'accord. Toujours des moments chéris par les enfants.
Oui, absolument. Le second, c'est pas un article, c'est une lecture d'un chapitre du livre Sapiens de Yuval Noah Harari.
Oui, un best-seller, hein?
Ouais. Et mondial, d'ailleurs.
Mondial, hein? Oui, tout à fait.
Et ça s'appelle L'avènement du futur. On ne sait pas s'il est antérieur ou parfait.
D'accord.
Puis, le dernier article, 6 suggestions pour permettre à votre enfant de prendre des risques.
Ah, sans avoir peur? On verra.
Avec,
d'accord. Alors, de mon côté, j'ai choisi un dossier qui traite du cerveau. En fait, c'est le résultat de recherches en neurosciences qui nous révèlent comment maximiser les ressources, soit notre concentration, nos apprentissages, notre mémoire et, enfin, contrôler nos émotions. Ce sera lu en 3 temps. Alors, c'est parti! Alors, Francis, vous nous parlez de pause et des effets positifs ou négatifs sur les enfants.
C'est ça, de pause positif.
Oui, positif. Voilà. Ah, d'accord.
Alors, le titre de l'article s'appelle « La recherche et les pauses », mais en réalité, c'est plutôt ce dont ça traite, c'est l'effet des pauses sur l'apprentissage. Ça a été publié le 20 août de cette année par Marc-Antoine Boudreau, dans un site Internet qui s'appelle le Réseau d'information pour la réussite éducative.
Le rire.
Le rire, effectivement. Donc, depuis quelques années, la prévalence des troubles d'attention est en constante augmentation, malheureusement. Et les élèves dits normaux peuvent également souffrir de difficultés d'attention et de concentration durant leur cours. Pour remédier à ce problème, plusieurs chercheurs recommandent des pauses fréquentes tout au long de la journée. Yuki Terada, chercheur et éditeur chez Edutopia, présente un condensé de 3 études sur les avantages des pauses pour les enfants dans leur milieu scolaire. Il explique en effet, dans un article intitulé Research-Tested Benefits of Breaks, comment ces pauses peuvent améliorer l'attention et la productivité des élèves tout en réduisant leur stress. Alors, est-ce que les élèves consacrent suffisamment de temps à l'apprentissage? La première étude citée par Terada a permis de mesurer que la majorité des élèves du primaire passent environ 15 minutes sans être distraits et sont incapables de se concentrer sur ce que dit le professeur après 15 minutes.
Oh mon Dieu, donc ça, c'est beaucoup de petites pauses là, qui sont requises.
Et cette même étude montre aussi que plusieurs courtes pauses dans cette courte période d'enseignement, on suggère 10 minutes, seraient plus efficaces que quelques périodes de 30 minutes.
Ah, d'accord.
Donc, première des choses, rythmer le discours par coup de 10 minutes. Est-ce que le professeur doit faire des blagues ou... En tout cas. Dans la deuxième étude recensée par Terada, des chercheurs ont utilisé l'imagerie par résonance magnétique, IRM, pour étudier le cerveau dans les moments de pause. Selon leurs résultats, les périodes de pause où l'esprit vagabonde sont associés à une activité neurologique intense dans d'autres régions du cerveau.
Okay.
Cette activité, générée par les pauses, serait cruciale pour consolider les apprentissages, pour en faire l'acquisition en mémoire, pour réfléchir aux expériences vécues, pour planifier l'avenir et pour permettre au cerveau de créer du sens.
C'est beaucoup d'objectifs pour des petites, dans le cadre de nos petites pauses, là.
C'est ça, gros programme pour les pauses.
Oui, c'est ça.
Le repos n'est donc pas une lâcheté, pas plus qu'il n'est une occasion gâchée pour être productif.
Mm-hmm.
Donc, la productivité implique les pauses. Après les pauses santé, les pauses productivité.
Mm-hmm.
Plusieurs études ont prouvé que de courtes séances d'activité physique, donc les activités physiques aussi, pas uniquement les pauses mentales,
mm-hmm.
améliorent le comportement des élèves, leur niveau d'engagement concernant la tâche à accomplir et augmentent aussi leur capacité de concentration. Ces séances d'activité physique permettent également de promouvoir la santé des élèves, évidemment, laquelle constitue un précurseur du succès scolaire
mm-hmm.
et de la santé cognitive.
Oui.
La dernière étude présentée par Terada mentionne que les pauses plus longues, comme les récréations et les périodes de jeu non structurées, permettent aux enfants d'apprendre à attendre leur tour. Ça, c'est la pause pipi, j'imagine.
Mm-hmm.
À résoudre des problèmes et des conflits, à contrôler leurs émotions et leur comportement, bien sûr, à être créatifs et à faire preuve de pensées divergentes. Bref, laisser tomber les récréations serait une grave erreur. C'est une composante cruciale et nécessaire du développement de l'enfant, et ce serait contre-productif que de les sacrifier pour passer plus de temps en classe. Avis aux politiciens qui proposent cette solution.
Oui.
C'est la fin de l'article, donc c'était publié dans le réseau
Rire.
Sur le site Rire.
D'accord. Merci beaucoup.
Jamais trouvé un vert plus bleu, un bleu plus vert. Aucune symphonie n'est riche d'autant d'harmonie qu'un merveilleux tonnerre qui fait l'amour avec la pluie.
Bravo, monsieur le monde, chapeau. Bien, vous l'aurez reconnu, hein? Bravo, Monsieur Le Monde. C'est interprété par Gabriel Marion Rivard et Yann Perrault avec la chorale des Impatients. C'est tiré de l'album Les Duos Improbables.
C'est vraiment très, très beau. Merci beaucoup, Jean-François. Alors, nous poursuivons en fait un peu dans la même ligne de pensée que Francis a mis sur la table par rapport à l'apprentissage. Et je vais vous communiquer donc différents articles qui sont issus d'un dossier qui a été réalisé par Elena Sanders pour la revue Science et Avenir de juin 2018. Le premier article s'intitule « Améliorer notre cerveau, c'est possible ». Alors, n'y a-t-il qu'au cinéma que l'on puisse devenir super intelligent? En 2014, Lucy, jeune héroïne de Luc Besson, repoussait ses limites cérébrales après avoir reçu une drogue expérimentale. Ce film, comme d'autres, surfe sur l'idée que notre cerveau aurait un potentiel caché qu'une manipulation pourrait révéler. Eh bien, chers amis, dans la réalité, pas question d'acquérir un super pouvoir en absorbant filtres ou pilules. En revanche, il est bien possible de décupler nos capacités cérébrales et ce, imaginez-vous, par nous-mêmes. Mon cerveau, ce héros, améliorer son cerveau. Voilà des livres écrits par des spécialistes qui sont de plus en plus nombreux. Et ces spécialistes s'intéressent en effet aux multiples facettes de notre cognition, comme la réflexion, la prise de décision, la mémoire et j'en passe, et indiquent comment les stimuler. Les dernières recherches en neurosciences cognitives prouvent qu'il existe des moyens et des stratégies pour y parvenir. Point commun à toutes ces techniques, elles exploitent une caractéristique nommée plasticité cérébrale. Pour comprendre, il faut rappeler que la structure du cerveau, notre cerveau est faite de circonvolutions et de plis, le positionnement de ces environ 80 milliards de neurones, c'est impressionnant, hein? Et le câblage des fonctions majeures comme la motricité, les sens, la parole, sont mis en place avant la naissance, sous l'influence des gènes et de l'environnement. Puis, jusqu'à l'âge de 25 ans, les neurones établissent des milliards de connexions que l'on appelle aussi des synapses, dont seules les plus utilisées perdurent. À l'âge adulte, le cerveau continue à modifier principalement ses synapses au gré des apprentissages. Ainsi, de nouvelles connexions apparaissent ou changent de forme en fonction de leur utilisation, tandis que la quantité de neurotransmetteurs qu'elles échangent, elle, varie. Cette plasticité, stimulée par l'apprentissage, est au cœur de l'amélioration du cerveau adulte. Alors, est-ce qu'on peut tous devenir des super-héros? Attention aux neuromythes. Ce sont des croyances sur nos capacités, comme celles selon lesquelles on n'utiliserait que 10% de notre cerveau, ou que l'écoute de 10 minutes de Mozart augmenterait l'intelligence spatiale. Il faut mettre tout ça en doute. Ces idées reçues sont par contre très tenaces, car elles nous confortent dans l'idée que l'on peut augmenter fortement nos performances, et ce, sans trop d'efforts, puisque l'être humain est paresseux. C'était un petit commentaire de Monique. Or, le cerveau a ses limites et contraintes dont il faut tenir compte. Prudence aussi face à un certain engouement pour les neurosciences. Le sociologue Alain Ehrenberg invite à réfléchir à la signification sociale de cet idéal de potentiel caché qui révélerait selon lui, qui relèverait selon lui, d'une nouvelle idéologie d'autonomie. Les neurosciences sont en train de devenir l'autorité morale, prenant la place de la psychanalyse. Voilà donc quelques conseils pour améliorer raisonnablement nos capacités cognitives dans la vie quotidienne, sans pour autant devenir des super-héros. Alors pour améliorer, on s'intéressera à la concentration, à l'apprentissage, à la mémoire et au contrôle des émotions. Je poursuis donc avec un deuxième petit texte qui s'intéresse à justement à la concentration et qui s'intitule « Des mini-missions pour maintenir son attention ». Alors, à l'heure où les écrans fourmillent d'informations, difficile de résister à l'envie de zapper d'un sujet à l'autre. Or, l'attention est la concentration est la pièce maîtresse pour mener à bien une tâche. C'est un processus de sélection et d'activation de certains réseaux de neurones aux dépens des autres. Problème? Chaque courriel ou SMS reçu force notre cerveau à déporter son attention vers l'information nouvelle. Une opération d'autant plus addictive que les technologies du numérique à portée de clic activent le circuit de la récompense. Alors, ce circuit neuronal crée une sensation agréable quand un besoin est satisfait. Il apprécie donc particulièrement l'avalanche d'informations nouvelles, ce qui encourage le zapping et déstabilise encore plus notre attention. Alors, comment lutter? C'est très simple, on le sait, en déconnectant des sources, première chose, mais aussi en prenant conscience que le cerveau ne fait bien qu'une seule tâche à la fois. Donc, pour atteindre son but, il faut hiérarchiser ses intentions en définissant un objectif précis, puis découper chaque étape pour l'atteindre en mini-missions. J'aime bien le mot « mission », ça nous rend des gens forts. Cela afin de favoriser les successions de ces succès brefs dont on parlait tout à l'heure et qu'affectionne le circuit de la récompense. Ainsi, pour organiser une réunion, on peut dresser la liste des collègues concernés, ça nous prend peut-être quelques minutes, trouver leur courriel, un autre 5 minutes, mettons, écrire un brouillon, etc. Ce procédé permet de rester concentré et de reprendre la tâche là où on l'a laissée en cas d'interruption. Cette méthode donne la possibilité donc de faire plusieurs choses à la fois, en jonglant d'une mini-mission à l'autre. Alors, c'était une première partie du dossier réalisé par Elena Sander pour la revue Science et Avenir de juin 2018, qui nous a donc permis de constater que des mini-sessions permettent de rester concentré sur un objectif, même en cas d'interruption.
Moi, j'ai un petit problème avec ça, c'est que je fais des listes aussi.
Oui.
Mais quand je fais des listes complètes, la journée est finie et je n'ai pas fini de faire ma liste encore.
Oui, mais il faut faire un objectif précis à l'intérieur de tes listes.
Ben, c'était faire la liste, voilà.
Ah, d'accord. Bon, alors on n'y gagnera pas, hein, Jean-François. Alors, Francis, vous nous amenez dans le livre, donc, best-seller en ce moment, autant au Québec qu'à travers le monde, de M. Harari, qui s'intitule, vous nous rappelez le titre?
Sapiens.
Sapiens.
Une brève histoire de l'humanité.
Brève histoire de l'humanité.
Ben, avec ça fait quand même 600 pages, mais c'est bref pour l'humanité, évidemment.
Exactement. Donc, on vous écoute.
C'est quand même étonnant qu'un best-seller parle de l'évolution et de l'histoire de l'humanité. C'est...
Oui. Donc,
intéressant.
Oui.
Donc, Yuval Noah Hariri, c'est le nom de l'auteur, a publié ce bouquin pour la première fois en hébreu en 2011, puis en anglais en 2014, et en français, ce sont les éditions Albin Michel qui l'ont édité en 2015. Mm-hmm. Hariri décrit l'apparition de l'homme et débute bien avant l'Homo sapiens, avec les Néandertals et autres australopithèques et pithocanthropes, pour étudier l'évolution de l'homme jusqu'à aujourd'hui. L'extrait que je vais lire s'intitule « L'avènement du futur ». Donc, c'est dire que, avant ce qu'on va voir comme explication, le futur n'existe pas.
Mm-hmm.
On va voir pourquoi et comment. Donc, cet extrait présente les changements de l'Homo sapiens reliés à son passage à la sédentarisation. Passage qui a été provoqué par l'adoption et le développement de l'agriculture. Avant l'agriculture, Homo sapiens était un chasseur-cueilleur et se déplaçait pour trouver et suivre sa nourriture et ainsi assurer sa survie. Harari qualifie le chasseur-cueilleur de fourrageur. Le verbe fourrager signifie être à la recherche de nourriture. Par contre, aujourd'hui, il a un sens plutôt négatif et en laissant supposer que le fourrageur n'a pas d'égard pour l'environnement qui fournit la nourriture. Ainsi, on dit comme expression, on dit que l'armée a fourragé des provisions, genre volé, ou qu'un lapin a fourragé un jardin.
Donc, détruit.
C'est ça.
Manger, piétiner, etc.
Voilà, donc retournons à l'avènement du futur. Habituellement, les fourrageurs ne perdaient guère de temps à s'interroger sur le mois suivant, alors que les paysans, eux, les agriculteurs, se projetaient en imagination à des années, voire des décennies du temps présent. Les fourrageurs n'avaient cure du futur parce que les aliments allaient directement de la main à la bouche, et qu'ils pouvaient difficilement les conserver, les accumuler. Certes, les décorateurs des grottes de Chauvet, de Lascaux, d'Altamira espéraient très certainement que leur travail durerait des générations. De même, les alliances sociales et les rivalités politiques étaient des affaires à long terme. Souvent, il fallait des années pour rendre une faveur ou venger un tort. Dans l'économie de subsistance de la chasse et de la cueillette, la limite de cette planification à long terme était cependant évidente. Paradoxalement, cela épargnait aux fourrageurs quantité d'angoisse. Pourquoi s'inquiéter des choses sur lesquelles on n'a aucune influence? Chaque jour qui arrivait, les gens se levaient et allaient chercher de la nourriture. La révolution agricole rendit le futur beaucoup plus important. L'économie agricole reposait sur un cycle saisonnier de production, formé de longs mois de culture suivis de pics de courte durée consacrés aux moissons. La nuit suivant la fin d'une récolte abondante, les paysans pouvaient faire la fête. Mais une semaine plus tard, il leur fallait retourner au champ dès l'aube pour une longue journée de travail. Même s'il y avait assez à manger pour aujourd'hui, et même pour demain, la semaine prochaine, voire le mois suivant, il devait s'inquiéter de l'année suivante et de l'année d'après. Le souci de l'avenir s'enracinait dans les cycles saisonniers de production, mais aussi dans l'incertitude fondamentale de l'agriculture. La plupart des villages vivaient de la culture d'une variété très limitée de plantes et aussi très limitée d'animaux domestiqués. Ils étaient à la merci de sécheresses, d'inondations, d'épidémie. Les paysans étaient obligés de produire plus qu'ils ne consommaient afin de constituer des réserves, ce que ne faisait pas le fourrageur. S'il n'y avait pas de grains dans le silo, pas de jarre d'huile au cellier, pas de fromage dans le garde-manger et pas de saucisses pendues au chevron, ils pourraient mourir de faim les mauvaises années. Or, il y aurait tôt ou tard de mauvaises années. Un paysan, qui faisait comme si de rien n'était, risquait de mourir à moyen terme. Tous les matins, les paysans scrutaient l'horizon, humant le vent. Un nuage? Les pluies viendront-elles à temps? Seraient-elles suffisantes? Des orages violents emporteraient-ils les semences, et détruiraient-ils les jeunes plants? Si le paysan se souciait d'avenir, ce n'est pas seulement qu'il avait raison de s'inquiéter, mais aussi parce qu'il y pouvait quelque chose. Donc, il pouvait influencer l'avenir. Il pouvait défricher un autre champ. Il pouvait creuser un autre canal d'irrigation et semer d'autres cultures. Le paysan anxieux, était aussi frénétique et dur à la tâche qu'une fourmi moissonneuse en été. Suant pour planter des oliviers dont ses enfants et petits-enfants seulement presseraient l'huile, mettant de côté pour l'hiver ou l'année suivante des vivres qu'il mourait d'envie de manger tout de suite. Le stress de la culture fut très lourd de conséquences. Il est le fondement même des systèmes politiques et sociaux de grande ampleur. Tristement, les paysans diligents et travailleurs ne connaissaient quasi jamais la sécurité économique dont ils rêvaient en se tuant au travail. Partout surgirent des souverains et des élites qui se nourrirent du surplus des paysans et leur laissèrent juste de quoi subsister. Rappelons l'époque du servage. Mm-hmm. Ces surplus de nourriture confisqués alimentèrent la vie politique, la guerre, l'art et la philosophie. Ils permirent de construire des palais, des forts, des monuments et des temples. 90 % des hommes étaient des paysans qui se levaient chaque matin pour cultiver la terre à la sueur de leur front, jusque tard la journée. L'excédent produit nourrissait l'infime minorité de l'élite qui remplissait les livres de l'histoire, les rois, les officiels, les soldats, les prêtres, les artistes, les penseurs. On peut dire que l'histoire est une chose que fort peu de gens ont faite pendant que tous les autres labouraient les champs et portaient des seaux d'eau. C'est la fin du passage.
Qui était donc de...
De M. Hariri.
Oui.
Et un extrait du livre Sapiens, publié chez Albin Michel en 2015.
Merci beaucoup, Francis. Alors, une petite brève, c'est un peu redondant, hein, une petite brève.
Mais courte.
Courte brève, il y en a des plus longues en effet, qui traitent de l'environnement. Alors, je vous parlerai des conséquences des gigantesques incendies ayant frappé le Canada et les États-Unis durant l'été 2017. Mais ça se reproduit en 2018, donc ça ne sera guère mieux. En fait, elles ne sont pas limitées au continent américain. Une équipe de l'Université de Paris-Saclay a reconstitué le trajet des panaches d'aérosols et ils ont tout d'abord atteint la stratosphère avant de se disperser sur une bonne partie de tout l'hémisphère nord de manière similaire à ceux d'une éruption volcanique de taille moyenne. Donc, avec l'intensité qu'on voit cet été, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors, chers amis, je vous invite à demeurer avec nous, car Voix de service magazine se poursuit après la pause et la lecture, avec la lecture, en fait, de... Qu'est-ce que je dis là? Avec la chanson. Et ça se poursuit avec la lecture d'un article sur la prise de risque de nos enfants. Et on continue à explorer les capacités de notre cerveau.
Écoutez les voix de service.
Tu cherches toujours ta famille, tu tues à l'aide d'une aiguille, le beau et le laid, toi tu sais ce que tu veux, ce qui te plaît. Paris c'est trop petit pour toi, tu préfères partir à dos droit, parcourir de ta langue les corps des anges de la drague incolore. Ta résidence secondaire et tu ne sais où sur la terre, entre jet lag et gueule de bois, tu te souviens de lui parfois. Mais sais-tu vraiment qui tu es? Mais sais-tu vraiment qui tu es? Sais-tu vraiment qui tu es? Tes yeux sont des lasers broyeurs, tu préfères jouer les agresseurs, t'adores faire l'amour à quatre pattes, tu es né en 84. Tu te regardes sur l'écran, tu fiches tes rides dans le temps, tu t'éparpilles dans les airs grâce à lui, grâce à ton grand frère. Toutes ces photos de ta vie, tu les regardes dans ton lit. Elles ne te laissent jamais seul, ton image sera ton linceul. Mais sais-tu vraiment qui tu es? Mais sais-tu vraiment qui tu es? Mais sais-tu vraiment qui tu es? Déjà vomi l'Asie, Les Amériques sont tes amis. Quand tu nous parles de l'Europe, tu dis d'elle qu'elle est une salope. Tu aimes adorer ceux qui mentent. Le passé, tu le réinventes. Ta honte, tu ne la racontes pas. Ton histoire, tu ne la connais pas. Tu es l'enfant de ta patrie. Tu aimes salir ta dynastie. Choisir un chemin déjà tracé, marcher loin des routes enneigées. Mais sais-tu vraiment qui tu es? Mais sais-tu vraiment qui tu es? Mais sais-tu vraiment qui tu es? Le ciel, tu le visites souvent. Des nuages pris entre les dents. Partir sur la mer comme les marins de Fassbinder, toujours noyés dans tes contrées. Mais sais-tu vraiment qui tu es? Mais sais-tu vraiment qui tu es? Mais sais-tu vraiment qui tu es?
Magnifique chanson de Pierre Lapointe, vous l'aurez reconnu. Sais-tu vraiment qui tu es? C'est tiré de son dernier album, La science du cœur, qui est paru l'année passée.
Merci Jean-François. Alors, deuxième partie du dossier réalisé par Elena Sander pour la revue Science et Avenir de juin 2018, qui traite donc des capacités du cerveau. Et tout à l'heure, on s'est adressé à la concentration. Maintenant, ce sera par rapport à l'apprentissage. Et le premier article s'intitule « Faire du sport accroît les fonctions cognitives ». Alors, pour mieux apprendre, allez, on enfile nos chaussures de course, ou comme diraient les Français, nos baskets. En 2003, l'University College de Londres au Royaume-Uni a démontré que plus on fait d'exercice à 36 ans, meilleure est notre mémoire après 40 ans. L'effet peut être plus immédiat encore. Une méta-analyse de l'Université de Colombie-Britannique, au Canada bien sûr, a passé en revue 39 articles publiés jusqu'en 2016 et portant sur les effets sur la santé cérébrale après 50 ans d'exercice physique de tout type, c'est-à-dire différents styles, différentes intensités et différentes durées. Les résultats suggèrent qu'un programme mêlant activité aérobie, donc d'endurance, et de résistance, est bénéfique pour la fonction cognitive, à condition qu'il soit d'intensité au moins modérée et réalisé en séance d'environ 45 minutes, en fait de 45 minutes minimum, et si possible quotidienne. Et ce, c'est la conclusion des auteurs de l'étude de Colombie-Britannique. Le sport a également un impact sur la performance scolaire, comme l'a montré une étude de l'Université de Dundee, comme on l'a vu tout à l'heure dans l'article de Francis avec les pauses santé. Une activité physique modérée avait un effet positif sur les performances en anglais, en mathématiques et en sciences, chez 4755 adolescents de 11, 13 et 16 ans. L'activité musculaire entraîne la production de protéines qui poussent le cerveau à multiplier des facteurs de croissance et plus particulièrement le Brain-Derived Neurotrophic Factor, qu'on appelle le BDNF. Alors, le BDNF, selon des expériences faites sur des souris, qui intervient dans la formation des circuits neuronaux, est un régulateur de la plasticité synaptique. On a vu tout à l'heure que notre cerveau était plastique, qu'on avait une ribambelle de synapses, donc ça active cette plasticité.
Mais si notre cerveau est plastique, c'est pas bon pour l'environnement.
Oui, mais on va le laisser à sa place, on ne le jettera pas. Alors, il favorise la création de micro-vaisseaux et la production de nouveaux neurones. Reste à le prouver chez l'homme. En attendant, à l'Université de l'Illinois aux États-Unis, L'équipe d'Aaron Barbey estime qu'on peut faire encore mieux. Une étude publiée en 2018 révèle que le programme le plus efficace pour augmenter les scores aux tests cognitifs, soit les fonctions exécutives, la mémoire de travail et la planification, est multimodal. Alors, il comporte un entraînement cognitif sur ordinateur, des séances sportives, mais aussi une stimulation transcrânienne. Alors, une approche globale intégrant l'engagement intellectuel et social, la stimulation cérébrale non-évasive, l'activité physique et l'alimentation est idéale. Alors, voici pour ce qui concernait l'apprentissage. Maintenant, je vais m'intéresser à la mémoire. Déjouer la courbe de l'oubli. N'est-ce pas une inquiétude que nous avons tous? Alors, 8, 5, 6, 1, 9, 0, 4. Si je vous demande de répéter ces chiffres, ben ça revient à activer la mémoire à court terme, qui retient pendant quelques secondes des données limitées à 7 items. En fait, 7 ou plus ou moins 2. Selon les études du psychologue cognitiviste George Miller de l'Université de Princeton aux États-Unis, et ce a été produit en 1956. Pour contourner cette limite, l'astuce est d'opérer en fait par regroupement. La suite des chiffres que j'ai nommés tout à l'heure devient donc 856 et 1904, par exemple, soit seulement 2 items au lieu de 7. Donc, pour activer la mémoire à plus long terme, il faut cette fois déjouer la courbe de l'oubli, élaborée en 1885 par Hermann Ebbinghaus, pionnier allemand de la psychologie expérimentale. D'après ses travaux, qui ont maintes fois été reproduits, seule une révision régulière permet de ne rien oublier. Alors, à la veille des débuts des classes, c'est très important pour les parents et les adolescents et jeunes enfants qui ont des choses à apprendre, à prendre note de ceci. Si l'on souhaite maximiser les performances au bout de quelques jours, une répétition espacée de 24 heures est optimale. En revanche, si on souhaite que ces connaissances soient préservées plusieurs années, il faut rallonger l'intervalle de répétition en proportion. L'effet est massif selon les recherches. Une seule répétition à un intervalle de quelques semaines multiplie par 3 les scores de la mémoire et de mémoire quelques mois plus tard. Autre gymnastique mentale imparable, paraît-il, c'est le palais de la mémoire, popularisé par nul autre que Cicéron, qui avait eu l'intuition du rôle de l'hippocampe, non pas le poisson, mais ce qui est dans notre cerveau. Cette structure cérébrale est impliquée à la fois dans la mémorisation, les émotions et la navigation spatiale. Chacun retient mieux les informations spatialisées et à fort contenu émotionnel. Pour retenir la liste des rois de France, par exemple, il faut se représenter mentalement un lieu familier, par exemple sa maison, puis y déposer tous les souvenirs dans l'ordre en scénarisant une histoire. Alors Dagobert sonnant à la porte, Clovis lui ouvrant, etc. Dès lors, revisiter mentalement les lieux ferait ressurgir la liste. N'est-ce pas incroyable? En 2017, l'université de Radboud Medical Center à Nijmegen dans les Pays-Bas a établi qu'un tel entraînement de 30 minutes par jour pendant 42 jours permettait de retenir jusqu'à 65 mots d'une liste contre une trentaine, se rapprochant des 70 retenus par les champions de la mémoire. C'était donc la deuxième partie du dossier réalisé par Elena Sanders pour la revue Science et Avenir du mois de juin 2018. On a donc vu que l'activité musculaire décuple les capacités du cerveau et que les stratégies, les méthodes de regroupement ou de spatialisation permettent de développer notre mémoire. Alors, Francis, comment permettre à nos enfants de faire face à des risques? Est-ce que...
Mm-hmm.
Oui, c'est ça?
C'est ce que Mme Tatiana Polovoy,
oui,
dans la section Société du Wix Mag, a publié le 13 août dernier. Rappelons-nous l'époque où l'on se promenait à vélo avec podcast et où grimper dans un arbre était une activité de routine. Il en va tout autrement pour les enfants d'aujourd'hui. Les parents ne gèrent plus les risques de la même façon en 2018. Nous sommes plus conscients du danger et des moyens à prendre pour l'éviter. Peut-être un peu paranoïaque.
Mm-hmm.
Mais en laissant un peu plus de liberté à nos enfants, on pourrait les aider à devenir des adultes en meilleure santé,
mm-hmm,
mentale et physique. C'est ce que préconisent de plus en plus de spécialistes. Un jeune qui joue librement et activement et qui, à son initiative prend des risques, a plus de chances de devenir un adulte actif, qui a confiance en ses capacités et qui a développé un sentiment d'autoprotection. Il va sans dire que permettre à son enfant de prendre des risques demande beaucoup de jugement et de discernement de la part des parents. Voici donc 6 suggestions pour y arriver.
Mm-hmm. On prend nos crayons. Oui.
Différencier les notions de risque et de danger.
Continuons, Francis.
Un danger...
Oui, c'est ça.
Donc, la différence entre risque et danger. Un danger représente quelque chose que l'enfant ne voit pas, alors qu'un risque est quelque chose que l'enfant perçoit et qu'il choisit ou non d'affronter. Si les parents peuvent et doivent prévenir les dangers, et même souvent les éviter complètement, il est de la responsabilité des petits de prendre ou non des risques. La prise de risque raisonnable permet d'évaluer les dangers et d'évaluer aussi les capacités de l'enfant. Permet de tester ses limites et de faire des choix éclairés. Cela est bénéfique notamment pour découvrir ses ressources personnelles, développer ses compétences et même pour acquérir de la confiance et de l'autonomie. Le bon truc, offrir à nos jeunes des espaces sécuritaires, mais pour qu'ils puissent y jouer en toute liberté. Deuxième suggestion, rassurer les parents. Une étude menée dans 12 pays montre que plus de la moitié des parents d'enfants de 0 à 18 ans souhaiteraient voir leurs enfants jouer dehors plus souvent, mais qu'ils demeurent inquiets au sujet de leur sécurité. Pour Adèle Antonioli, chargée du projet Espace à l'Alliance québécoise du loisir public, il importe de rassurer les parents. Elle dit « Les sentiments de protection se créent avec du vécu. C'est en essayant que l'enfant prendra conscience de ses limites. Et, en grandissant, il acquérera une meilleure perception du danger. » Troisième suggestion, résister à l'envie d'assister. Le plus difficile dans l'idée de permettre à son enfant de prendre des risques, c'est résister, pour le parent. Résister à l'envie d'être ce parent hélicoptère, un parent qui est toujours au-devant de son enfant pour aseptiser l'environnement et pour faire les choses à sa place, afin qu'il ne lui arrive rien. Donc, laisser l'enfant évoluer lui-même. Quatrième suggestion, développer son sens de l'observation. Et alors, si on résiste à l'envie d'aider les enfants, on fait quoi au parc? La prise de risque demande discernement et surtout entraînement de la part des parents. Il faut demeurer vigilant en observant de loin ou de proche, selon leur âge bien sûr, nos jeunes. Par exemple, on peut les laisser grimper sur une roche et les regarder à distance et n'intervenir que s'ils réclament notre aide. Cela demande une grande part d'observation, de présence et d'attention. L'adulte ne fait pas les choses à la place d'un enfant, mais Il encourage ses initiatives et s'assure que le jeu se déroule dans le plaisir. Il observe ses capacités actuelles et anticipe celles qui sont en développement, parce que le jeu permet le développement. Il lui offre des occasions adaptées à ses capacités et à son rythme. Finalement, il adapte son attitude et ses comportements en fonction du stade de développement de l'enfant et de ses besoins. 5. Dédramatiser les blessures. C'est inévitable que si vous laissez votre enfant jouer librement, il se fera des égratignures et des bleus. Mm-hmm. L'important, c'est tout simplement de dédramatiser ses blessures en disant que ça fait partie du jeu. Et finalement, il faut lui laisser le plus grand nombre possible d'occasions de jeu. Donc, le laisser grimper, sauter, rouler, sortir et essayer toutes sortes de situations physiques. Voilà, c'était donc l'article de Tatiana Polovoy dans Société de Wix Mag, publié le 13 août 2018.
Merci. Alors, je poursuis les articles sur le cerveau et je poursuis en fait avec la mémoire et un premier article qui s'intitule « Éviter les bugs cérébraux ». Alors, où ai-je donc garé la voiture? Comment s'appelle cette personne déjà? Chaque jour, notre cerveau nous joue des tours, parfois source d'inquiétude. On pourrait croire que ce sont des bugs cérébraux. Mais... en fait, ces bugs font partie du fonctionnement cérébral normal et quel que soit l'âge. Selon l'Alzheimer's Association américaine, oublier des noms ou des rendez-vous, à condition de s'en souvenir plus tard, ou égarer parfois des objets, ne sont pas des signes précurseurs de la maladie. Alors, combien de personnes on entend autour de nous « Oh, j'ai tellement peur !» Le trou de mémoire dans une conversation, par exemple, serait dû simplement à une perte d'attention, créant une courte amnésie. Alors l'astuce pour y échapper? Fixer son interlocuteur afin de minimiser les sautes d'attention. De même, pour éviter d'oublier un nom, ce qui relève également d'un saut attentionnel, il faut se le répéter mentalement et le lier à une caractéristique de la personne, comme Roger a un gros nez, Martine a un coup de cygne, Francis a des lunettes.
Ou
a l'air bête, voilà. Un jeu d'association qui vaut aussi pour la place de parking. Donc, la mémoire immédiate retenant mal les numéros, une image parlante est toujours aidante. Ainsi, la plaque 415 peut évoquer un cadre dont la photo représente une chaise. Le cerveau n'oubliera pas. Quant à savoir si on a bien fermé la porte, la fenêtre, etc., il s'agit cette fois de déjouer la paresse du cerveau qui fonctionne à l'économie, l'automatisme, afin d'éviter de mobiliser de coûteuses ressources pour la mémorisation. Dès que possible, il enregistre donc les gestes quotidiens dans la mémoire procédurale, celle des automatismes, libérant ainsi l'attention pour une autre tâche. Mais qui efface la date de l'acte. Alors, pour contourner cela, il faut combiner de la nouveauté avec le geste, comme chanter quand on ferme la porte à clé. Vous vous en souviendrez alors. Je poursuis et je termine ce dossier sur le cerveau et ses apprentissages et on parlera d'émotions. Alors, le dernier article s'intitule « Apprendre à rester maître de soi ». Atténuer sa peur de parler en public ou à la radio, stimuler son enthousiasme avant une entrevue, tirer parti de sa colère, savoir réguler ses émotions est un atout. Et on peut contrôler ça avec certains exercices donc cérébrales. Les spécialistes parlant même d'intelligence émotionnelle. Réguler une émotion veut dire modifier son niveau d'agréabilité, son intensité, sa durée et son expression, mais en aucun cas l'éliminer. Les émotions produites par des circuits cérébraux complexes sont en effet indispensables, car elles ont un vrai rôle adaptatif. Ainsi, une tristesse ressentie après un échec serait utile, car elle nous aide à en déterminer les causes. La honte, suscitée par une transgression, permettrait d'intégrer les règles, la peur de fuir ou de combattre. Selon Richard Davidson, qui est professeur à l'Université du Wisconsin, père des neurosciences affectives, chacun d'entre nous posséderait son style d'émotion, émotionnel. Ainsi, nous serions plus ou moins résilients, c'est-à-dire la capacité à récupérer après une épreuve, selon que notre cortex préfrontal régulerait plus ou moins bien l'action de l'amygdale. Et encore une fois, ce n'est pas ce qu'on a dans la gorge, mais c'est dans notre cerveau, impliqué dans la peur et l'anxiété. Les styles émotionnels seraient modifiables par apprentissage, notamment par la pratique de la méditation pleine conscience dont vous nous avez parlé, Francis, la semaine dernière. L'apprentissage émotionnel est aussi le credo de Lisa Billinghausen, qui est docteur en psychologie. En collaboration avec Christophe Haag, elle a élaboré une méthode baptisée Processus émotionnel intelligent, le PEI. Et le PEI consiste à repérer les émotions qui nous traversent, à en déceler les indices corporels, chaleur, froid, frisson, etc., à évaluer l'intensité et aussi à identifier les éléments déclencheurs. Il faut ensuite réfléchir à leurs conséquences et en diminuer la négativité en provoquant des émotions antidotes. Ainsi, contre une peur paralysante, il serait possible de convoquer la curiosité qui donne de l'énergie ou de la fierté qui nourrit la confiance, nous assure la psychologue. Les chercheurs de l'EM Lyon ont développé de leur côté une formation professionnelle qui délivre un certificat attestant du quotient émotionnel. Alors, une application gratuite que vous pouvez consulter, j'ai été voir, ça s'appelle Dr. Mood, M-O-O-D, est aussi disponible pour le grand public et donc pour essayer de développer notre quotient émotionnel. C'était donc le dossier élaboré par Elena Sanders pour la revue Science et Avenir de juin 2018, qui nous révèle que, bien que la mémoire immédiate connaisse des failles, eh bien on peut contrer cet état de fait en jouant sur la surprise et que l'intelligence émotionnelle consiste à apprivoiser nos émotions pour mieux les contrôler. Voilà! Une deuxième brève, cette fois on va aller vers l'Antiquité. Alors il y a un casque dit corinthien qui a été exhumé d'une sépulture du 5e siècle avant notre ère dans le sud-ouest de la Russie. Il faut bien voir la Russie et corinthien, on est en Grèce. Hein? Voilà. Alors c'est le seul exemplaire connu d'un tel casque porté par un fantassin sur les côtes nord de la mer Noire, corrodé par 2500 ans de séjour dans le sol, c'est peu, hein? Il témoigne de la présence de colonies grecques dans cette région. Fabriqué à partir d'une tôle de bronze, sa calotte se prolongeait d'une seule pièce par un nasal et des couvre-joues tressaillants et un couvre-nuque. Une autre brève, cette fois, qui touche les adolescents. Alors, il y a une étude menée auprès de 700 adolescents en Suisse qui montre que l'exposition aux champs électromagnétiques de radiofréquence associés à l'utilisation de téléphones mobiles peut avoir des effets néfastes sur les performances de la mémoire associées à certaines régions précises du cerveau. On a parlé beaucoup aujourd'hui de nos jeunes qui retournent à l'école et du cerveau, donc je me disais, ah, c'est intéressant. L'évolution rapide des technologies s'accompagne d'une augmentation de l'exposition aux champs électromagnétiques de radiofréquence dans notre vie quotidienne. Et la source d'exposition la plus répandue est le téléphone mobile lorsqu'il est tenu près de la tête. Alors, plusieurs recherches ont été menées pour connaître les effets potentiels de ces champs magnétiques sur la santé. Celle-ci est la première étude épidémiologique au monde à tenter d'estimer les effets cumulatifs sur le cerveau des adolescents. Alors, nous allons suivre les recherches de ces gens qui se trouvent en Suisse. Alors, chers auditeurs, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci à Francis Marin. Toujours mon chéri pour le choix de ses articles. Merci à Jean-François Roy pour le choix judicieux de la musique et la mise en onde. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, jeudi prochain. Et je vous dis de garder l'écoute puisque...